L'apôtre Pierre est toujours représenté avec un gros trousseau de clés à la ceinture ou avec des clés à la main. Ça, c'est bien connu. Et s'il en est ainsi, c'est à cause de ces paroles du Christ. Vous savez, Pierre dit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus dit à Pierre, « Là, c'est formidable, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai l'Église. » Et ensuite, il lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors du coup, l'image populaire en a fait de Pierre une sorte de portier devant le paradis, un garde du corps devant boîte de nuit, quoi. Il est là, il surveille, et puis il laisse rentrer ceux qui valent la peine, et les autres, il les fiche dehors. Je pense que vous n'attendez pas que je défende ce type d'image. Mais néanmoins, cette histoire de clé... Aujourd'hui, personne ne prêche dessus, j'ai pourtant bien cherché, on trouve à peu près rien là-dessus. Alors que du temps de la Réforme, ça a été un sujet de débat, de dispute absolument effroyable. Parce qu'à l'époque, cette histoire de pouvoir des clés et d'être capable de lier ou de délier, ça faisait référence à la question de savoir est-ce que l'Église, dont Pierre était donc le premier membre et la pierre sur laquelle elle avait été construite, est-ce que l'Église a le pouvoir, justement, de tout décider? Alors, ceux qui croyaient dans le pouvoir de l'Église disaient oui, parce que Jésus a remis les clés de la boutique à Pierre, donc c'est Pierre qui décide. Et donc l'Église a le droit de tout décider sur la question de l'organisation, du dogme, de la morale, etc. C'est Pierre et ses successeurs qui ont donc toute l'autorité. Alors Luther, lui, disait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ce pouvoir ne lui est donné que par rapport à la question du péché. C'est-à-dire que l'Église a juste le pouvoir de pardonner les péchés ou de les remettre. Alors les deux se défendent, je vais vous dire. Les deux se défendent parce que, est-ce que les clés, c'est un pouvoir total? Ce qui peut le justifier, c'est le passage d'Ésaïe au chapitre 22, où on voit à un moment donné qu'il dit qu'il donne à je ne sais plus qui la clé du royaume de David, c'est-à-dire qu'il lui donne le pouvoir, il le nomme roi, autrement dit. Donc donner la clé, ça peut être vraiment de dire je te donne le pouvoir temporel sur tout. Et de l'autre côté, ce qui peut permettre de voir les choses autrement, c'est que cette histoire de tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, etc., c'est dit explicitement un peu autrement dans l'évangile de Jean, tout à la fin, où à ce moment-là, Jésus ou Jean explicite l'affaire en disant « Ceux à qui vous pardonnerez vos péchés, Dieu leur pardonnera, et ceux à qui vous les gardez, Dieu les gardera. » Et donc, d'après ce commentaire, on a l'impression que la question, c'est bien donc seulement les péchés. Alors, c'est la solution normalement admise aujourd'hui en disant « Le vrai pouvoir de l'Église, c'est de remettre les fautes ou de les pardonner. » Et puis là encore, on se dispute, parce que certains vont dire « Mais à ce moment-là, seule l'Église a le pouvoir de pardonner. » Et ça a été encore un élément de dispute au moment de la Réforme, entre ceux qui disaient « seul un prêtre ordonné peut donner l'absolution » et puis les protestants qui disaient « mais pas du tout ». La preuve, c'est que là, il le dit à Pierre, mais deux chapitres plus loin, en Matthieu 18, cette histoire de lier et de délier, c'est dit à tous les disciples. Donc, ce n'est pas réservé à Pierre, c'est vrai pour tout le monde. Alors, est-ce que ces discussions font sens pour vous ? J'avoue que pour moi, non. Ces débats me semblent tout à fait d'un autre âge, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se fiche éperdument de savoir si l'Église a un pouvoir, si quelqu'un, savoir qui peut pardonner ou autre. Et donc, je pense qu'il faut reprendre un petit peu cette question et de savoir comment ça peut nous parler à nous aujourd'hui. Alors, j'ai une idée là-dessus. C'est que je crois que dès le départ, l'idée de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner l'accès ou m'interdire l'accès au royaume de Dieu? Est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre que de moi et de ma relation à Dieu? Eh bien, je ne crois pas. Je pense que dans toute la Bible, partout, la question de savoir si on accède à Dieu, elle ne dépend de personne d'autre que de nous et de Dieu. Dieu se donne à nous et moi je dis oui ou je dis non. C'est pas vous ou un tel, quel qu'il soit, qui pourra faire en sorte que j'entre ou que n'entre pas dans ma relation à Dieu. Donc cette idée de voir en Pierre un tiers, une troisième personne qui donnerait l'autorisation d'accéder à Dieu ou pas, ça me semble faux. Et donc je reprends cette thèse que nous avions défendue il y a quelque temps, de dire Pierre, là, ne représente pas une personne, mais est l'image du disciple. Et donc, c'est mon image à moi. Autrement dit, ça ne dépend que de moi. Et Pierre, c'est le chrétien quand il confesse sa foi. Et par conséquent, quand moi je dis « Oui, Seigneur, tu es le Christ, fils du Dieu vivant », eh bien, j'ai les clés du royaume. Et je peux lier et délier. Alors, j'ai les clés du royaume de Dieu. Ça, c'est bien, mais encore autre question, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Et ça m'ouvre à quoi? Eh bien, je pense que, malheureusement, là encore, beaucoup de gens imaginent que le royaume de Dieu, c'est le paradis ou l'enfer, c'est-à-dire après la mort. Mais si je lis bien l'Évangile, je me rends compte que je ne crois pas que Jésus voyait les choses comme ça. À un moment donné, les disciples lui demandent « Mais c'est où le royaume de Dieu? C'est quand ?» Il lui dit « Écoutez, le royaume de Dieu, il est là, au milieu de vous. » Alors, soit c'est au milieu de vous parce que ben, nous sommes là, donc le royaume de Dieu, il est là, soit il est en vous, c'est-à-dire c'est une dimension à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je crois que c'est ça, le royaume de Dieu. Ce n'est pas un moment plus tard, un paradis ou un enfer, mais c'est la capacité que j'ai, moi, d'être dans la relation à Dieu et d'être en lien avec un Dieu qui est un Dieu d'amour et de paix. Voilà, c'est ça. C'est la foi, en fait. Et là, d'ailleurs, vous savez, Paul, dans Romains 14, verset 17, il dit ça. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, c'est-à-dire que tout ce que vous faites de matériel, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais il dit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc je crois que c'est ça l'enjeu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est entrer dans la paix et dans la joie. Et donc c'est ça, le paradis, si vous voulez, c'est ici sur terre. Et on peut ici même se construire une vie épouvantable ou se construire une vie de bonheur, de joie, de paix et de tranquillité et de fraternité. Et c'est là ce que Jésus, donc, du coup, dit à Pierre. Il lui dit, voilà, là tu as la clé du royaume. C'est-à-dire, quel est le secret pour rentrer dans la paix et dans la joie? C'est ça la question. Comment, moi, je peux accéder à une vie de paix, de tranquillité, d'espérance? Eh bien, il faut y entrer dans ce royaume, il faut avoir la clé. Et la clé, eh bien, c'est ça, c'est ce qui permet d'entrer, ce qui donne l'accès, finalement, à quelque chose. Alors, cette clé, je vous l'ai dit, c'est, à mon avis, Pierre, là, en tant qu'il confesse sa foi. C'est-à-dire qu'il dit, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, quelle est la clé pour bénéficier du royaume de Dieu, de toutes les promesses de Dieu, de bonnes choses? C'est de croire en Jésus-Christ. Quand je le dis comme ça, je ne me plais pas trop, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est de croire en Jésus-Christ. Ça, c'est dit sans cesse dans l'Évangile. Celui qui croit sera sauvé. Et vous savez, dans la liturgie, à chaque fois, il y a la confession des péchés, et après, il y a ce qu'on appelle les paroles de grâce, qui annonce le pardon. Et j'ai toujours beaucoup de mal quand je fais la liturgie parce que les trois quarts de ces paroles de pardon sont toujours liées au fait de croire en Jésus-Christ. Jésus qui dit, surtout dans l'Évangile de Jean, « Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. » Où Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc à chaque fois, on montre que l'enjeu, finalement, d'accéder à la vie, à l'espérance, à la paix, c'est de croire en Jésus-Christ. Et je pense que de croire en Jésus-Christ, ça peut donner des bonnes choses, mais comme j'ai un tempérament ouvert ou généreux, je ne sais pas, mettons ouvert, ça m'embête pour les non-chrétiens et pour les athées. Et est-ce que vraiment, si on ne croit pas en Jésus-Christ, forcément, on est condamné aux ténèbres, à l'obscurité, à la haine et à la violence? Eh bien, je ne le crois pas. Mais je pense que, dans le fond, c'est pas faux, parce que la question, c'est peut-être pas de croire en Jésus comme personne, mais de croire dans ce qu'il annonce, c'est-à-dire dans ce qu'il a dit. Et effectivement, Jésus, il a un évangile, il a une prédication. Et ça, c'est ce que j'enseigne aux catéchumènes, à la fin de leur catéchuménat, quand ils se demandent « est-ce que je vais confirmer ou pas ?» Je leur dis « écoutez, c'est pas très compliqué. L'Évangile, vous commencez à savoir ce qu'il y a dedans. Il nous dit que le but de la vie, c'est d'essayer de pardonner, de vivre fraternellement, de donner, de partager et de vivre en paix. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous êtes d'accord, eh bien vous croyez en Jésus-Christ, voilà, c'est-à-dire vous croyez dans son message, dans son évangile. Autrement dit, il y a plein de gens qui sont finalement chrétiens sans le savoir, parce qu'on est dans une civilisation chrétienne, et puis parce que, après tout, l'amour n'est pas une exclusivité du christianisme, il ne faut pas exagérer quand même. Mais en tout cas, je pense que l'enseignement du Christ, c'est quand même la clé de la vie, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la paix, c'est la clé de la joie dans son existence. Il n'y a pas d'autre passage que ça. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc oui, c'est cohérent. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Moi, je reconnais que c'est toi qui dis les paroles de la vie. Et si vous croyez cela de tout votre cœur, eh bien, vous avez la clé du bonheur dans votre vie. C'est-à-dire que la vie heureuse, ce n'est pas compliqué. C'est de croire dans le service du prochain, de croire que ce n'est pas moi le plus important, mais c'est de donner, c'est de pardonner, c'est de partager et c'est d'aimer. Donc ça, je pense que c'est vrai. Et en plus, quand on a ça, le texte dit, le séjour des morts ne prévaudront point contre ce que tu construiras. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se construit une vie solide qui est même plus forte que la mort. Et ça, c'est vrai pour chacun qui construit sa foi. Bon, et puis, simplement, il lui disait aussi que non seulement tu as les clés du séjour des morts, mais il dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, il y a la question de l'Église. Et ça, je vous l'ai dit aussi l'autre fois. L'Église, ce n'est pas une institution, c'est la communauté. C'est-à-dire que si on a cette foi en Jésus-Christ, cette confiance dans ce qu'il dit, et qu'on veut vraiment le mettre dans sa vie, ça, c'est un choix personnel. Eh bien, non seulement on entre dans le royaume, mais aussi on construit une communauté. Donc, je l'ai dit l'autre fois, certes, on ne peut construire une église ou une communauté que si vraiment, à la base, on veut essayer de vivre ensemble le partage et la fraternité. Bon, mais ce n'est pas simplement ça. Une communauté, c'est aussi, au-delà de ça, de dire que ce salut qu'il nous donne, ce n'est pas de se dire « si je crois en Jésus-Christ, je serai heureux tout seul dans mon coin », mais c'est de dire « ça construit une église, c'est-à-dire une communauté », parce que le mot du Nouveau Testament ne désigne pas forcément une église organisée, mais une communauté en général, une communauté de gens qui sont ensemble, quoi. Eh bien, à ce moment-là, croire dans le message du Christ, ça ouvre une communauté, c'est-à-dire ça m'ouvre à une dimension relationnelle, une façon de vivre avec les autres. Et finalement, ça m'ouvre aussi au fait d'être en communion avec d'autres. Et je crois que ça aussi, c'est une des clés du royaume. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Alors, c'est vrai que de vivre avec les autres, c'est compliqué. Ça demande à être capable de pardonner. Ah tiens, oui, c'est vrai ça, être capable de pardonner. Mais c'est justement là-dessus que j'étais arrivé tout à l'heure, sur cette autre chose qu'il dit là, tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu déliras sur terre sera délié dans le ciel. Et je vous ai dit probablement que ça a rapport avec le pardon, cette histoire. Parce que dans un autre passage de l'Évangile, c'est lié, il explicite que c'est la question là, c'est de pardonner. Alors donc, il est la question de pardon, oui. Et que pour vivre en communauté, il faut savoir pardonner, c'est tout. C'est la clé, ça, c'est la seule clé. Si vous ne pardonnez pas, vous n'entrerez jamais dans le royaume, ni dans la joie, ni dans la paix, c'est tout. C'est pas, je ne vous demande pas de dire pardonner pour être gentil avec les autres, c'est simplement la clé d'entrer dans le royaume, et c'est tout. Bon, c'est vrai que cette clé, elle est parfois un peu difficile à manier, mais néanmoins, c'est la clé. Je ne peux pas dire autre chose. Alors là encore, le Moyen-Âge nous a embarrassés avec ces histoires de pardon. Et qu'ils ont dit, ben justement, voilà, pour entrer dans le royaume, le critère, c'est que toi, tu sois pardonné. Et donc, c'est l'Église, il va te dire, moi, je te pardonne, donc tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Mais je crois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la clé d'entrer dans le royaume, ce n'est pas que moi je sois pardonné, mais c'est que moi je sache pardonner. C'est-à-dire, ce qui me touche, moi, ce n'est pas que l'autre me pardonne, c'est que moi je pardonne. Ça, c'est absolument essentiel. Et alors, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs solutions pour gérer cette histoire de clé et de pardon. On peut tout d'abord, penser les deux séparément. Et étudions cette affaire. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, et ce que tu déliras sur terre sera délié dans le ciel. On peut se dire que c'est une, une promesse à part et que, pour l'instant, ne faisons pas le lien avec la clé du royaume. Se dire que c'est à part, mais qu'en soi-même, il y a quelque chose d'important, parce que ça nous apprend quelque chose, je crois. C'est que, d'abord, toute faute terrestre, finalement, est fondamentalement liée à une faute céleste, et que, dans le fond, ce qui est grave, ce ne sont pas les fautes célestes, ce sont les fautes terrestres. Autrement dit, il n'y a pas de faute en soi. On ne peut pas dire « je suis coupable par rapport à Dieu parce que je ne sais pas s'il y a une culpabilité possible par rapport à Dieu ». La seule faute, elle est terrestre. C'est-à-dire une faute, c'est par rapport à quelqu'un ou quelqu'un à qui on fait mal. Et le mal, c'est de faire du mal à un autre. Et c'est ça qu'il dit. Quand tu fais du mal à quelqu'un sur terre, eh bien ça c'est grave jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, c'est pas un prochain que tu blesses, c'est Dieu lui-même. Et si tu arrives à soulager ce mal que tu as fait auprès d'un de tes frères, c'est pas juste que tu soulages un petit frère, c'est en Dieu lui-même que tu fais un soulagement. Et en fait, c'est ce lien entre, je crois qu'il n'y a pas de mal absolu, si vous voulez, il n'y a pas une sorte de loi divine qui nous tomberait dessus en disant « voilà le bien et voilà le mal ». Le bien et le mal, ce n'est qu'une question concrète sur Terre, de savoir si on fait du bien ou si on fait du mal. Et je pense que là, il y a quelque chose à rappeler aux protestants en particulier, qui ont un peu tendance à trouver que le pardon de Dieu est donné à bon marché. Et donc, on dit « voilà, vous demandez à Dieu son pardon, il vous le donne, donc j'ai fait du mal, je suis pardonné, et on n'en parle plus ». Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a pardonné votre mal que vous avez guéri celui que vous avez blessé. Et par conséquent, je pense qu'il serait bon que les chrétiens sachent que finalement, le pardon de Dieu, d'accord, je vous l'accorde, Dieu vous pardonne. Mais qu'en est-il du mal que vous faites sur terre? De ce que vous avez lié, de ce que vous avez broyé sur terre, cela, qu'est-ce que vous en faites? Et là, ça me fait penser à quelque chose d'important. Qui est-ce que viennent de célébrer nos frères juifs? Vous savez, cette semaine, ils ont fêté la fête de Kippour, qui est la fête du grand pardon. Et ils ont là une pensée qui est très radicale, mais je crois assez juste. Ils disent finalement, si j'ai fait du mal à mon frère, Dieu ne me pardonnera que si mon frère me pardonne. C'est-à-dire qu'il conditionne le pardon de Dieu au pardon du frère. Je pense que c'est un peu fort parce que je pense que Dieu me comprend et me pardonne, mais dans le fond, c'est quand même très responsabilisant. Et je crois que c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, ce qui est lié sur terre, eh bien c'est lié dans le ciel. Et donc préoccupez-vous aussi du mal que vous avez fait, et si vous voulez vous sentir pardonné de cela, commencez par essayer de délier sur terre ce que vous avez lié. Nos fautes, bien sûr que Dieu nous les pardonne, mais effectivement, il est bon de se sentir responsable et de voir le mal non pas simplement par rapport à Dieu ou notre propre conscience, mais aussi objectivement par rapport aux autres. Et c'est là peut-être l'essentiel, finalement. Dieu n'est que compassion par rapport à nous. Il n'y a pas de règle divine qui serait dans l'absolu par rapport au terrestre. Et l'autre chose, c'est que, du coup, même à l'inverse, quant au mal qui m'a été fait, ce qu'il dit, si moi je pardonne, eh bien, c'est comme si Dieu pardonnait. C'est-à-dire que votre pardon, ce n'est pas juste quelque chose de secondaire ou de terrestre, mais quand vous savez pardonner à quelqu'un, eh bien, c'est un pardon qui monte jusqu'au ciel, qui monte jusqu'à l'éternité et qui vous ouvre les portes du royaume. Voilà. Ce que vous délirez sur terre, ce sera délié dans le ciel. Vous vous rendez compte de ce pouvoir extraordinaire? Et ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux prêtres, c'est dit à tous les disciples. Ça, c'est une chose, je crois, absolument extraordinaire. Mais en même temps, je m'enflamme dans cette hypothèse, et il y en a une autre. C'est que, lié ou délié, alors c'est vrai, d'après l'évangile de Jean, ça aurait rapport au péché, mais dans la tradition juive rabbinique, lié et délié ne veut pas du tout dire pardonner ou garder les péchés, ça veut dire autoriser ou permettre. Par exemple, dans le Talmud, en parlant du droit de savoir si on a le droit de ramasser du bois un jour du sabbat, il est écrit « l'école de Shammai le lie, c'est-à-dire le défend, l'école de Hillel le délie, c'est-à-dire l'autorise ». Et on a la même chose d'ailleurs ensuite dans la tradition musulmane, dans le monde arabe, où il y a des groupes de croyants qui sont appelés ceux qui peuvent lier et délier. Ce sont ceux qui sont confrontés à la question « Est-il permis ou défendu de faire ceci ou de faire cela ?» Et ce sont ceux qui ont le droit de répondre d'une façon définitive à cela. Et donc on trouve ça, et ce qui fait que dans certaines traductions de la Bible, j'ai trouvé ça dans la traduction de la Bible du Semeur, ils traduisent du coup dans ce sens-là, et ils disent « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu permettras sur la terre sera permis aux yeux de Dieu. » Donc on est complètement dans autre chose. Vous voyez, c'est intéressant. Alors, hypothèse intéressante, autoriser ou interdire. C'est intéressant parce que ça a aussi rapport avec le bien ou le mal. C'est intéressant parce que ça donne aussi la responsabilité à celui qui est là et que par conséquent, il n'y aurait pas une morale imposée depuis le ciel. C'est un peu la même chose, mais de dire c'est à toi de décider le bien et le mal. C'est à toi d'essayer de penser ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, ça ne veut pas dire que faites ce que vous voulez, on s'en fiche. N'oubliez pas que Jésus dit ça à Pierre après qu'il ait confessé sa foi. C'est-à-dire que si tu crois vraiment que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc je résume l'Évangile en 5 mots, si tu crois vraiment que le sens de la vie, c'est l'amour, le pardon, le service de l'autre et la paix, tu crois vraiment ça, eh bien fais ce que tu veux mon gars, pas de problème, tu choisis. Et ce que tu feras, ce sera le bien. Et si tu crois que c'est bien parce que tu as bien soupesé et tu te dis oui, ça c'est pour le bien de mon frère ou de ma sœur, si tu crois que c'est bien et que de tout ton cœur tu l'as fait en rapport avec cette foi de l'Évangile, eh bien Dieu sera d'accord avec toi. Ce sera bien. Et donc il n'y a pas à se demander toujours s'il y a une loi morale qui serait au-dessus de moi, qui aurait une solution pour me dire ce qui est bien et mal. Ce qui est bien et ce qui est mal, c'est à toi d'avoir la responsabilité de le choisir à partir de ta foi dans le message de l'Évangile. Et donc personne ne peut dire à votre place ce qui est bien et ce qui est mal. Vous êtes libre et responsable. Et chaque croyant a le pouvoir de décider dans son intime conviction et dans son rapport à la Bible, dans son rapport à Dieu, dans sa prière et dans sa foi. Chaque chrétien a le pouvoir et la liberté et la responsabilité de déclarer ce qu'il croit bien dans sa vie, en fonction de l'autre et de l'amour du prochain. C'est ce qu'a dit saint Augustin dans cette phrase très célèbre d'un commentaire de l'épître de Jean, la première, où il dit en latin « Diligé et quod vis fac », c'est-à-dire « aime et fais ce que tu veux ». C'est-à-dire si tu aimes, eh bien écoute, à ce moment-là, je n'ai plus rien d'autre à dire, parce qu'il n'y a pas d'autre bien que le fait de vouloir le bien de l'autre, et c'est tout. Et puis ça va même plus loin parce que j'ai, je veux dire, si vous aimez vraiment, on peut espérer que vous ferez du bien, mais dans beaucoup de cas, les décisions sont difficiles à prendre. Et dans beaucoup de cas, même en se disant « il faut que je sois pour le bien commun » et tout ça, les décisions sont compliquées et on est confronté à des choix extrêmement cornéliens où on ne sait pas si, où est le bien et où est le mal. Et je pense que cette phrase en disant « si vous choisissez que c'est bien, dites-vous que c'est bien pour Dieu aussi » a quelque chose de très libérateur. J'ai été moi-même confronté à cela dans des cas très graves de personnes qui se posent des cas de conscience épouvantables. Par exemple, dans les cas de médecins qui proposent un avortement thérapeutique pour un enfant très malade et qui dit « est-ce qu'il faut pas, où est le bien, où est le mal ?» Personne ne peut dire où est le bien, où est le mal. Là, c'est vraiment trop compliqué, si vous voulez. C'est ni tout bien, ni tout mal d'un côté ou de l'autre. Mais je me souviens avoir dit à ces gens-là, écoutez, réfléchissez bien de tout votre cœur. Et quand vous aurez décidé, dites-vous que ce que vous aurez décidé, c'était le bien. Voilà. Et donc, il faut à un moment donné dire, ce que je délie sur terre, c'est délié dans le ciel. Donc, vous avez dit, c'est ça qu'il faut faire. Eh bien, Dieu est d'accord. Et dites-vous, c'est bien, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de regret à avoir, si vous voulez. Parce que, en fait, la vie est continue et après, c'est l'avenir qui peut-être pourra faire en sorte que ce qui a été décidé sera bien ou mal. Alors bon, je vais prendre un sujet moins dramatique, mais qui concerne un certain nombre ici et moi aussi en tant que parent. c'est le choix des enfants pour leurs études. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ingénieur ou médecin? Ou avocat? Compliqué. Et c'est affreux, un choix qui va décider toute ma vie. Où est le bien, où est le mal? Et c'est très angoissant. Eh bien, je vous dis, écoutez, ça n'a aucune importance. Choisissez ce que vous voulez, et si vous décidez que c'est bien, ce sera bien. Voilà. Parce qu'une chose est bonne, elle est bonne si on décide qu'elle est bonne, et c'est tout. Et si on décide a priori qu'une chose est mauvaise, elle sera toujours mauvaise. Et si on dit « je décide que ça, c'est bien », eh bien je ferai en sorte que ce sera bien. Et vous pouvez choisir un métier complètement absurde, eh bien si vous décidez que c'est bien, ce sera une chose merveilleuse parce que vous en ferez quelque chose de bien. Et donc c'est ça, cette libération, à la fois une responsabilité, vous voyez, et une libération formidable, en disant que, après tout, vous avez la liberté totale, il n'y a pas, si vous voulez, cette angoisse terrible de ce petit jeu qu'on me disait quand j'étais enfant, il y a deux portes, une porte qui donne vers l'enfer, une porte qui donne vers le paradis, elles sont semblables, rien ne les distingue, choisis une des deux portes. Pff, quelle horreur, quelle angoisse. Eh bien, ce n'est pas comme ça. Les deux portes, c'est la porte que vous choisissez qui mène au paradis, si vous le voulez, et si vous avez à la base une foi fondamentale dans le message du Christ. Et puis, je vous disais, cette histoire de lier et délier, je crois que finalement, ça a un rapport fondamental avec, justement, vous le voyez, avec le fait d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire avec le fait que j'accède à la joie, à la justice et à la paix. Parce que lier et délier, c'est non seulement de savoir pardonner aux autres, mais c'est aussi de se savoir responsable par rapport à soi-même, et c'est pour moi d'être capable de me délier et de me lier ou de me délier par rapport à ce qui m'arrive. Pardonner, c'est se délier du mal. C'est pas seulement délier l'autre de sa culpabilité. Pardonner à quelqu'un, c'est me délier du mal qu'il a fait. Et lier, ça peut être mauvais, mais ça peut être bien aussi. Donc tout ce que tu lieras sur terre, est-ce qu'on dirait qu'on aurait le devoir de lier? Non, lier, ça peut être se lier à des choses bien. Comme Paul dit, attachez-vous fortement au bien. Et donc c'est nous qui choisissons les liens que nous voulons avoir, et c'est à nous de choisir, est-ce que je me lie au bien ou est-ce que je me lie au mal? Est-ce que je me lie à la vengeance et à la haine ou est-ce que je me lie au pardon et à la paix? Voilà. Eh bien, ça c'est la clé de l'entrée dans le royaume de Dieu, de savoir pardonner, de savoir se libérer et de bien choisir ses attachements. Et c'est pareil pour interdire ou pour autoriser, c'est pas par rapport aux autres, ce n'est pas à moi de vous dire vous avez le droit de faire ceci ou le droit de faire cela, c'est par rapport à moi-même, les choix que j'essaye de faire. Et ça nous dit que nos choix humains, c'est à la fois notre manière de gérer nos rapports aux autres, dans le pardon, et aussi nos choix moraux, et que finalement les deux sont liés, parce que ça a rapport au bien ou au mal, et c'est ça l'enjeu de notre paradis ou de notre enfer sur terre. Et c'est ça qui fait que la vie pour nous peut être heureuse ou non, qu'on puisse avoir la paix ou non, la joie ou non, pour soi-même et pour les autres. Amen.